13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'était le coup d'envoi du bac avec toujours la même émotion. Vous allez l'entendre des candidats pour ce rite de passage incontournable. On en parlera avec la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Virginie Salmen, qui vous révélait hier que l'un des sujets de maths avait visiblement fuité. Arthur Mbaché nous racontera les coulisses de la reconstitution qui a conduit aux aveux complets de Jonathan Daval. C'était lundi. Plongé avec Chloé Triomphe au cœur d'un cold case élucidé cette semaine, 33 ans après le meurtre d'une étudiante à Amiens. Dans Tout Terrain, un témoignage exceptionnel. Martin Fenot a rencontré Jacques Le Gall, 98 ans. Il a été l'un des premiers Français à gagner Londres après l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Enfin, France-Brésil, on le disait, c'est l'affiche choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine demain soir au Havre. Les Bleus vont affronter une légende, la brésilienne Formiga, âgée de 41 ans. Julien Froment nous en fera le portrait. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
C'est donc Europe 1 qui vous le révélait hier. Gros soupçon de fuite d'un sujet de maths du bac hier matin. De quoi donner des sueurs froides au ministère de l'Éducation nationale alors que tout semblait se dérouler sans gros couac depuis le coup d'envoi lundi pour plus de 740 000 candidats. Coup d'envoi du bac avec l'épreuve reine et toujours aussi redoutée, la philo. Virginie Salmen racontait sur Europe 1 dans le journal de 8h lundi matin les dernières minutes des candidats avant de plancher.
Alors je parle pas très fort parce que les épreuves, ça y est, ont commencé. Après cette ambiance d'excitation et de stress, les candidats ont enchaîné les bisous du matin. J'ai entendu des filles répéter des citations de philo dans les toilettes. Et voilà, c'est parti pour 4 heures de dissertation quand beaucoup d'élèves se rongent les ongles ou s'encouragent. Ilan, assis dans le couloir, révise jusqu'au bout devant la salle d'examen.
Je vais juste relire un cours avant de commencer, histoire d'avoir l'esprit léger, quoi. Pour pas stresser, en sachant que j'ai tout travaillé. Quoi.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1. Alors pour ces candidats, c'est une première pour vous. C'est la cinquième fois que vous couvrez ces épreuves, avec, je dois dire, toujours le même enthousiasme.
Oui, c'est assez enthousiasmant. Hein. Le bac, c'est plein d'émotions. On entre un peu dans leur état de stress à ces candidats et puis d'enthousiasme, parce qu'ils sont quand même assez excités après avoir révisé des semaines, des mois, d'enfin y être et puis enfin arriver à l'épreuve.
Et d'ailleurs, vous me dites, l'autre grand moment, c'est les résultats.
Oui, ça c'est mon moment préféré presque, les résultats. Le jour du bac, c'est super, la philo, la première épreuve, c'est très bien. Les résultats, il y a encore plus d'émotions. Et puis c'est vraiment des morceaux de vie assez importants qui se jouent devant les tableaux d'affichage. C'est vraiment un très très grand moment pour un journaliste éducation.
Alors,
en tout cas,
on va entendre en tout cas ces candidats que Yasmina Katou a rencontrés au sortir de l'épreuve de philosophie. C'était lundi dans le journal de la mi-journée. Elle était allée au lycée Claude Monet dans le 13e à Paris.
J'ai foiré parce que d'après eux, j'ai pas fait un bon plan. Dans l'explication de ça, j'ai dit qu'il existait plusieurs vérités et non pas qu'une seule. C'est ça ?
Bah oui, parce que la religion, c'est un dogme avec une seule vérité imposée, alors que les sciences, c'est plusieurs vérités qui sont factuelles, éprouvées et elles sont changeantes. Alors que le dogme, il reste le même.
Bon, j'ai pas trop...
En gros, c'est bien ce que t'as dit.
Ok, bah c'est bon alors. Je pense avoir la moyenne.
Alors, on le voit, cet enthousiasme, il est là, Virginie, clairement. Il est là aussi parce que vous me l'avez bien dit, le bac, c'est quand même un rite de passage incontournable dans toutes les familles.
Oui. Alors, par exemple, l'épreuve de philo, on vient d'entendre les réactions. C'est toujours un grand moment parce qu'on a l'impression d'être très intelligent pendant une journée. Alors, les parents se souviennent aussi souvent de leur sujet. Enfin, c'est vraiment un moment de débat dans la famille.
Moi, je m'en souviens, l'enfant, c'est-elle le sommeil de la raison.
Bah, voilà, vous voyez, voilà, tout le monde se souvient d'au moins un sujet de philo, un sujet de disserte. Et les parents, donc, se souviennent aussi de leur bac. C'est quelque chose de commun. C'est exactement ce que disent les parents d'Ilan, le jeune élève que j'ai suivi. Et ils s'appellent Anne et Sylvain.
Ça nous rappelle des souvenirs, hein, c'est sûr. C'est le premier gros examen, donc on sait jamais comment lui il va gérer vraiment le stress, même s'il a l'air plutôt serein.
C'est un rite de passage, le bac, en fait. Hein. C'est une épreuve par laquelle on passe tous, donc ça représente aussi quelque chose au niveau de l'esprit commun, donc il y a un petit côté solennel, rite de passage.
Alors, rite de passage, mais surtout dans notre jargon, on va se le dire, un marronnier, c'est-à-dire effectivement, comme la rentrée des classes, c'est incontournable et l'idée, c'est de renouveler justement l'exercice de l'incarner de manière différente à chaque fois, parce que on l'a dit, ça représente un moment très important dans les familles. Vous allez me contredire ou pas, c'est 80% d'une classe d'âge qui a son bac quand
quasiment,
même.
Quasiment, 79,9, on n'est pas tout à fait, je crois, aux 80%.
Alors, comment on fait pour se renouveler ?
Alors, vous l'avez dit, hein, il faut vraiment incarner le bac. On ne peut pas parler du bac comme ça, à plat, de manière très froide. Donc, il faut trouver chaque année un profil. Donc, vous savez qu'on a essayé parfois de trouver des profils un peu étonnants. Alors, il y a eu les triplés, les quadruplés parfois. Ça, c'est des choses qu'on faisait dans les années précédentes. C'est vrai qu'on se dit, c'est un peu extrême quand même.
C'est un peu caricatural.
Caricatural, voilà, comme exemple de candidat à suivre. Donc, chaque année. Donc, par exemple, l'an passé, j'avais choisi de faire le reportage avec un père et sa fille qui, tous les deux, passaient le bac pro. Donc, en même temps, les mêmes épreuves. Ils révisaient ensemble sur la table de la cuisine. C'était un vrai moment de complicité père-fille. Donc, cette année, j'ai trouvé un autre profil parce que, évidemment, tous les ans, on ne peut pas proposer aux auditeurs la même chose. Donc là, cette fois, j'ai choisi Ilan. C'est donc un élève de terminale S très brillant parce que ses deux parents sont instits. Il est vraiment chouchouté par
ses
parents.
C'est lui qu'on a entendu au tout début du sujet que vous aviez suivi au lycée de Rueil. Vous étiez lundi matin.
Exactement. On a entendu ses deux parents juste avant. Donc, ils habitent à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et lui, il vise carrément, rien de moins, la mention très bien. Donc, c'est un excellent élève cette année que j'ai choisi de suivre.
Alors, chaque année, on a quand même toujours le candidat le plus âgé. Le plus jeune, cette année, je crois que pour le plus jeune, on a même battu un record.
Oui, alors il a le même âge que celle de l'an dernier, mais 3 mois de moins. L'an dernier, c'était un candidat de 11 ans et 10 mois. Cette année, c'est 11 ans et 7 mois. Donc, on sait très, très peu de choses hein, de ces candidats-là, parce qu'évidemment, on imagine de les protéger. En tout cas, les parents, et ils font bien, les protègent. C'est un très, très jeune candidat. Et ils ont des parcours étonnants, parce que ce sont des enfants qui souvent savent lire des 2 ans, passent de la crèche quasiment en CE1. Ils font des sauts de puce, enfin des sauts, des grands sauts au contraire, de classe en classe. Donc de CE1, ils peuvent passer en 4e. Là, j'ai contacté cette année un élève qui avait 13 ans, qui avait passé le bac l'an dernier alors qu'il était en 4e, un bac S, il l'avait eu. Cette année, il repasse un autre bac, une série ES, alors qu'il est passé de 4e en terminale, mais qu'en même temps, il est à la fac. Enfin, c'est vraiment des profils très atypiques, vous le savez, vous l'imaginez, des élèves à très haut potentiel. Donc, ce sont des exceptions du système scolaire. Ce sont d'ailleurs des élèves qui, en général, ne sont pas en classe, sont scolarisés chez eux. Et ce sont comme ça des extraterrestres, si on peut dire, parmi les candidats du bac, parce que ce sont des élèves qui ont des parcours vraiment atypiques, étonnants.
Et on va entendre justement une psychothérapeute qui a rencontré Ève Roger et qui lui parle, puisqu'elle est spécialiste justement de ces élèves dits surdoués, elle lui parle justement de ces profils atypiques.
Vous imaginez un enfant de 2 ans qui parle évidemment couramment, mais qui probablement, pour ce qui le concerne, lit couramment. Eh bien, déjà, au lieu de rentrer en première section de maternelle, il rentre directement en CE1. Et ça va aller très vite. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir comment cet enfant-là, qui s'est probablement retrouvé à 7 ans au collège et puis à 8-9 ans à la porte du lycée, comment il a vécu déjà toutes ces années où il était si atypique.
Voilà ce que Jeanne Siofachin disait à Ève Roger sur les très jeunes candidats. Quant au plus âgé, cette année, Virginie, vous me disiez qu'il avait
77 ans. Ça, c'est pas un record. Ça arrive. On a déjà vu des candidats de plus de 80 ans.
Alors, on poursuit cette séquence sur le bac QV 2019. Dans un instant avec vous, on va voir comment s'est passée la semaine. Parce que c'est vrai que le bac, c'est une grosse machine. La peur du ministère, c'est que quelque chose vienne agripper. Et justement, hier, ça a bien failli être le cas avec une suspicion de fuite sur l'épreuve de maths.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et c'est avec vous, Fabienne Lemoelle.
Retour dans Tout Terrain sur le bac QV 2019 avec la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Je le disais, Virginie, la peur de tout mini, c'est que quelque chose vienne gripper la machine du bac. Et hier, c'est bien ce qui a failli se passer. Branle-bas de combat. Et c'est vous qui avez sorti l'info des fuites, disait-on, sur l'épreuve de maths. Déjà, comment l'info vous est arrivée ?
Alors au départ, ce sont des parents d'élèves et des élèves qui m'ont alerté. En fait, évidemment, pas des fraudeurs, hein, ce sont des élèves qui s'offusquaient en sortant de l'épreuve de maths, donc aux alentours de midi, parce que d'autres sont venus les voir et leur ont dit « Ah ben nous, regardez sur notre téléphone,
on les ont nargués. »
Voilà, les ont nargués en leur disant « Nous, on les avait, les sujets, depuis hier soir pour certains, le matin avant l'épreuve pour d'autres. » Donc, ils se disaient « Mais c'est vraiment pas juste, moi j'ai trouvé le sujet très difficile, j'avais aucune aide, je n'ai pas vu le sujet avant. » Donc, ils se sont offusqués et donc ils l'ont fait savoir. Au départ, visiblement, visiblement, alors une enquête de police est en cours, donc on ne sait pas précisément ce qui s'est passé, le ministère a porté plainte, mais en tout cas ce que nous a dit le numéro 2 du ministère, c'est que les sujets avaient été diffusés sur des messageries privées, donc de type WhatsApp ou Snapchat. Et ensuite, à la sortie de l'épreuve, les élèves qui étaient en colère que d'autres aient eu accès au sujet, eh bien, les ont mis sur les réseaux sociaux type Twitter. Donc on a vu des captures d'écran, etc. Ça a ensuite fusé sur les réseaux sociaux, mais au départ, c'est comme une sorte de chaîne de SMS ou de WhatsApp.
Et c'est comme ça qu'en fin d'après-midi hier, vous vous êtes retrouvés au ministère d'Éducation nationale pour une conférence de presse où on s'est même demandé si on n'allait pas annuler l'épreuve et la faire refaire.
Oui, c'est ce qui peut se produire en général, effectivement. Alors là, sur ce cas-ci, le ministère a considéré que 3 ou 4 lycées qui avaient, a priori c'est ça, les élèves de 3 ou 4 lycées ont reçu les sujets, c'était assez circonscrit comme fuite. Et donc ils se disent, on ne va pas pénaliser 350 000 candidats pour 3-4 lycées qui ont peut-être reçu les sujets. Donc ils ont décidé de ne pas annuler cette épreuve.
Donc vous l'avez dit, des enquêtes sont en cours, j'imagine, administratives de police, donc à suivre. Alors, comme le bac n'est jamais un long fleuve tranquille, il y avait déjà eu en début de semaine, là c'était plus surprenant, une pétition de candidats contre une épreuve du bac français. On va écouter un extrait du sujet d'Ève Roger.
Non, il ne savait pas qu'André Chédid, mère de Louis et grand-mère de Mathieu Chédid, était une femme, une poétesse même. D'ailleurs, pour Pablo, ça a été moins une.
Sur le début, j'ai commencé à écrire « il » tout le long. Et en fait, c'est en relisant le texte une deuxième fois que j'ai vu le André. Du coup, j'ai modifié tous les « il » en « elle ». Donc, j'ai fait pas mal de ratures, mis un peu de blanc partout. Mais bon, la plupart de mes amis, ouais, bien 90%, ils ont mis l'auteur sans eux ou « il » tout le long de leurs commentaires.
Mais pas de panique. Que les élèves de première n'aient jamais entendu parler d'André Chédid, ce n'est pas grave, explique Françoise Cahen, professeure de lettres. Ce qui est plus gênant pour elle, c'est que beaucoup n'aient même pas imaginé, grâce au « e » à la fin du prénom, que la poésie pouvait être signée par une femme. Certains élèves font déjà courir la rumeur sur Internet que l'erreur coûterait 2 points, mais la prof rassure au contraire, une grande clémence a été demandée au correcteur.
Ils ont des chances franchement d'obtenir gain de cause, ces lycéens ?
Alors oui, il y a une commission, vous savez, d'harmonisation après chaque épreuve. Les professeurs se sont mis d'accord et ont dit qu'effectivement, bon, ils n'étaient pas tous censés connaître André Chédid. Ils auraient pu remarquer le E à la fin de André. Mais bon, peu importe. J'ai entendu beaucoup de lycéens qui se sont désolés, qui se sont dit, mais bien sûr, j'aurais dû regarder de plus près. Donc le ministère a fait savoir que les candidats ne seraient pas pénalisés.
Alors l'autre menace qui a plané, ça c'était en début de semaine, c'était le mouvement de grève des profs prêts à ne pas surveiller les épreuves au final.
Alors, au final, il y a eu des perturbations, des défauts de surveillance dans quelques centres d'examen, mais le ministère avait prévu assez large, les rectorats aussi, il y avait dans les endroits où on estimait que la grève serait peut-être suivie, un tiers de surveillants convoqués en plus. Donc, il y a effectivement des endroits où des surveillants qui devaient venir surveiller les preuves de philo ne sont pas venus, ont fait la grève. Au final, il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a eu aussi quelques piquets de grève ici et là, donc des enseignants qui ont fait des petits rassemblements, sans évidemment empêcher les candidats d'entrer dans la salle. Mais il y a eu des petites manifestations contre la réforme du lycée de la part de certains enseignants.
On parlait aussi du menace des corrections, donc ça c'est évidemment après les épreuves. Qu'est-ce qu'il en est pour l'instant ?
Alors pour l'instant, ça reste à l'état de menace. Certains syndicats de professeurs, enfin plutôt d'ailleurs un mouvement de type stylo rouge, menace de ne pas corriger ou de faire de la rétention de notes, c'est-à-dire corriger, mais ne pas publier les résultats, en tout cas donner les notes pour le jour de la publication.
C'est-à-dire le 5 juillet, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas savoir si quelqu'un a son bac ou ne l'a pas, s'il manque certaines notes, on imagine.
Voilà, alors c'est tellement cruel qu'on imagine qu'ils ne mettront pas leur menace à exécution, mais pour l'instant, c'est en tout cas une menace qu'ils ont formulée.
Alors une dernière question, Virginie, parce que vous nous aviez raconté que vous vous étiez mis dans la peau d'un candidat au concours de prof des écoles, c'était ici dans Tout Terrain, on en avait parlé assez longuement, vous avez passé ça d'ailleurs très sérieusement, hein. Les épreuves écrites, résultat ?
Alors très sérieusement, j'avais révisé 2 heures.
Vous vous êtes appliquée, mais je me suis appliquée pendant l'examen.
Oui, ça c'est vrai. Je me suis appliquée pendant les 4 heures des épreuves à chaque fois, donc en français et en maths aux écrits, j'ai été admissible. Donc je ne saurais pas si j'ai été admise parce que j'étais au Festival de Cannes dont je vous ai parlé ici aussi pendant les dates des oraux. J'ai fait un petit calcul, vu les notes moyennes des oraux qui sont généralement plus élevées que celles des écrits. Normalement, j'aurais pu largement être admise, même si je n'ai pas eu des super notes parce que je n'ai pas eu le temps de beaucoup travailler. Mais en tout cas, j'ai été admissible et j'aurais pu être admise.
Bon, bah alors félicitations, on est contente de vous garder parmi nous. Et on verra ce que donnera la cuvée 2020 du bac l'année prochaine.
Peut-être
merci.
Que je passerai l'année prochaine, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Merci beaucoup Virginie Salmen. Europe 1. À suivre, moment intense en début de semaine lors de la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval. Son mari est passé à des aveux complets. Arthur Mbaché va nous raconter le rôle clé de la mère de la victime pour faire parler Jonathan Daval.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Enfin, la vérité sur l'affaire Daval a pu trouver son chemin. On en parle dans Tout Terrain. L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, il est 13h20.
Jonathan Daval a donc livré lundi des aveux complets. C'était à l'issue de la reconstitution du meurtre de sa femme Alexia en Haute-Saône. Une reconstitution qui aura duré plus de 7h30 et qui a suivi notre correspondant dans le Grand Est, Arthur Mbaché.
Derrière les volets clos de cette petite maison rose, une femme assiste à la scène de la mort de sa fille, rejouée par son gendre Jonathan Daval. Isabelle Foulio nous disait ceci ce matin, juste avant le début de la reconstitution.
C'est pas de gaieté de cœur que j'y vais. Voilà, j'y vais parce qu'il faut faire bouger les choses et que peut-être qu'en nous voyant, il pourra parler davantage.
Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour Fabienne.
C'est vous donc qui avez suivi cette reconstitution, on vient de l'entendre. La reconstitution, ça peut être dans une enquête un moment vraiment déterminant car c'est le moment où on rejoue en quelque sorte la scène de crime. Et cette reconstitution a commencé à l'aube et s'est déroulée en plusieurs étapes.
Et l'idée, c'était bien de reproduire tout ce qui s'est passé avec les enquêteurs qui minutieusement prennent tout en photo, chaque séquence, quasiment chaque geste, chaque déplacement, chaque coup aussi, la strangulation, le déplacement du cadavre dans la voiture, dans la forêt, la crémation. Ça veut dire rien de naturel, évidemment, c'est très lent. Et autour de Jonathan Daval, en plus de la juge d'instruction, des gendarmes, le procureur, les avocats, la famille de la victime, la mère, le père, la sœur et le beau-frère d'Alexia et le médecin légiste avec un rôle essentiel, confronter ses constatations médico-légales sur le corps d'Alexia. C'est lui qui s'était chargé de l'autopsie, avec le scénario des violences tel qu'il se dessine là pendant la reconstitution. Jonathan Daval a accepté de jouer le jeu, d'interpréter, si on peut dire, son propre rôle, celui d'Alexia, étant assuré d'abord pour la dispute mortelle par une gendarme, puis pour le transport du corps par un mannequin.
Et ça s'est donc passé en deux temps.
Oui, d'abord dans la maison du couple. Et c'est clair, à présent, on peut le dire, Jonathan Daval a violemment frappé, puis longuement étranglé Alexia. Et après, dans le bois des Moulins, où il a reconnu, enfin, disent les parties civiles, avoir mis le feu au cadavre lui-même.
Alors, le bois des Moulins, c'est justement là qu'on va vous retrouver lors du direct de 12h30 lundi, où vous expliquez que vous êtes tenu à distance pour cette reconstitution.
Ça fait 7h30 maintenant que cette reconstitution a commencé. Et les enquêteurs, les avocats, les experts, Jonathan Daval, la famille d'Alexia sont depuis 3h dans le bois des Moulins pour cette deuxième séquence. Alors, la presse est maintenue à près d'un kilomètre du lieu où le corps d'Alexia a été retrouvé. Aucune info, disons-le, sur ce qui se passe, ce qui se dit maintenant dans la forêt que j'ai en face de moi au loin. Pour cette reconstitution, les enquêteurs photographient tout maintenant dans le bois, comme ils l'ont fait dès 5h du matin dans la maison du couple Daval.
Alors Arthur, on vient de l'entendre, vous le dites clairement, vous êtes tenu à distance, il y avait d'ailleurs, vous m'avez dit, un gros dispositif de sécurité, vous n'avez pas eu accès au lieu.
Non, pas question de voir quoi que ce soit, Fabienne, la rue du pavillon des Daval était bouclée ce matin-là, et pour la séquence dans la forêt, mes confrères et moi, on était maintenus à distance, surveillés même par un drone de la gendarmerie, et pour tout vous dire, un photographe de la presse locale nous a tous surpris, à un moment il a tenté le coup, il a coupé tout droit dans les champs de blé, vers la scène de la reconstitution, il a fini un peu plus tard, penaud, arrêté par deux gendarmes. Alors pour les images, les caméramans, c'était sans doute frustrant, moins pour les radios, on savait que c'était inutile de chercher à savoir ce qui se passait en temps réel, d'autant plus qu'on avait convenu avec le procureur et les avocats qui nous commenteraient tout ça sur place à la fin.
Et puis il y a aussi les parents d'Alexia Daval qui ont pris la parole. On l'a dit, la reconstitution a duré plus de 7 heures. Elle a été marquée par des aveux complets du principal suspect. Jonathan Daval a reconnu avoir porté donc des coups mortels sur sa femme, puis avoir en partie incendié son corps. Ça, il ne l'avait jamais avoué et il ne l'aurait peut-être jamais avoué sans la demande insistante de sa belle-mère.
Nous voulions la vérité, nous l'avons eue, c'est tout ce qui compte. C'était très long, très difficile à obtenir, mais avec le savoir-faire de tout le monde, eh ben, nous y sommes parvenus. On le connaît bien, Jonathan. Je sais qu'il nous aime, que nous aussi, on a eu des liens très forts avec lui, donc c'est pas facile. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant.
Lui-même s'est adressé à vous?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il a demandé pardon.
Et vous pouvez accepter le pardon.
Par rapport à Alexia, on ne sait pas.
Je ne sais pas, c'est tellement dur pour l'instant. On l'a aimé. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard.
on entend vraiment l'émotion des parents d'Alexia, particulièrement de sa maman. Et c'est vrai que cette femme, elle a joué vraiment un rôle clé, déterminant dans ses aveux. Ça avait déjà été le cas d'ailleurs au moment de la confrontation.
Et sans cette femme extraordinaire, en tout cas étonnamment, disons-le, bienveillante, on serait sans doute encore aujourd'hui très loin de la vérité. C'est grâce à Isabelle Fouillot, puisqu'elle le dit, hein, et le procureur aussi le dit, elle a imploré son gendre dans la forêt, à l'endroit même où ça s'était passé. Elle l'a imploré donc de dire la vérité. Et face à cette femme, face à ce regard sans haine, sans violence, sans colère, eh bien, elle a fini par admettre qu'il avait lui-même mis le feu au cadavre. Ça rappelle cet autre moment, cette scène saisissante. Il y a quelques mois, dans le bureau du juge à Besançon, Jonathan Daval vient d'avouer, ou plutôt de réavouer le meurtre. Il se met à genoux devant Isabelle Fouillot. Il demande pardon. La mère d'Alexia se penche. Elle le redresse et le serre dans ses bras. Une avocate sort un mouchoir en papier et le passe discrètement à un policier qui surveille l'entrée du bureau et qui pleure. Alors vous avez entendu, le temps pour la famille est au soulagement. Aujourd'hui, il est trop tôt pour parler de pardon. On verra ce qu'il en sera à la fin de l'année prochaine, au moment du procès aux assises de Vesoul.
Merci beaucoup Arthur. Europe 1. À suivre, un autre temps fort de l'actualité judiciaire cette semaine. Un cold case vieux de 33 ans, enfin élucidé. Chloé Triomphe va nous raconter tout le travail d'une avocate pour arriver à ce rebondissement.
Il est 13h29, la suite de Tout Terrain sur Europe 1 avec encore une affaire criminelle, Fabienne Lemoyle.
Actualité judiciaire décidément chargée cette semaine avec un rebondissement dans une affaire criminelle datant de 33 ans. On appelle cela communément un cold case. La justice avait classé le dossier. Aucune piste n'avait permis d'élucider le meurtre sauvage d'Isabelle Ménage, une jeune informaticienne originaire d'Amiens. C'était en 1986. Bonjour Clé Triomphe.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui nous avez révélé cette semaine ce rebondissement. Un homme, en l'occurrence Jacques Ranson, surnommé le tueur de la gare de Perpignan, déjà condamné à la réclusion à perpétuité pour deux autres assassinats de jeunes femmes, a été extrait de prison, placé en garde à vue et il a donc avoué.
Oui, tout s'est passé en 48 heures entre mardi matin et jeudi dans la matinée où effectivement Jacques Ranson a fait des aveux aux gendarmes de la section de recherche d'Amiens venus expressément à Béziers l'entendre sur ce dossier très ancien. Il a donc avoué le viol d'Isabelle Ménage, le meurtre par strangulation, puis les sévices corporels qu'il lui a infligés avec de nombreux détails et même une mémoire étonnante. Il a donc été mis en examen pour ce meurtre qui serait, selon lui, le premier de son parcours criminel. Il pourrait donc être jugé prochainement aux assises.
Alors, on l'a dit, ce crime date d'il y a 33 ans. On se demande comment cette affaire s'est dénouée aussi longtemps après. Qu'est-ce qui a relancé le dossier ?
Eh bien, en fait, le dossier était clos en 1992, faute d'éléments. Mais ce sont les avocats de la famille Ménage, Corinne Herman et Didier Seban, qui ont eu une intuition, en fait, suffisamment convaincante pour inciter les magistrats à rouvrir le dossier avec l'aide des gendarmes chargés de l'enquête. En fait, au procès de Jacques Ranson à Perpignan pour les deux autres meurtres qu'il a commis dans les années 90, eh bien, ils ont vu des similitudes entre les plaies des victimes sur le ventre et celles...
Comme une signature.
Exactement, en fait. Comme une signature criminelle. Donc, des similitudes entre les victimes de Perpignan et Isabelle Ménage, et c'est sur la base de cette comparaison en fait que tout a redémarré.
Alors on imagine le soulagement pour la famille qui, à défaut de comprendre pourquoi leur fille a été tuée, c'est au moins qui l'a tuée. Et puis on imagine que pour les avocats dont vous venez de nous parler, qui ont donné l'impulsion pour la réouverture de cette enquête, c'est aussi un soulagement.
J'ai posé cette question précisément à Corinne Herman qui travaille depuis des années et des années sur les disparitions non résolues, sur les tueurs en série. Écoutez sa réponse.
C'est peut-être une des premières fois où j'ai une vraie satisfaction. Quand même, je la ressens un peu parce que je pense qu'enfin on va nous entendre quand on dit que lorsque tous les feux sont au vert, quand tout le monde se met à travailler, quand on a un parquet, quand on a des magistrats, quand on a des enquêteurs experts qui tous veulent le faire, on voit qu'on peut le faire. Rien ne résiste à l'enquête quand on met les moyens. Et dans une affaire de 33 ans qui est réglée en moins d'un an, eh bien, c'est ça la satisfaction, c'est de dire que peut-être on va nous entendre pour d'autres affaires. J'ai du mal à en tirer une satisfaction personnelle parce que c'est sacré une affaire criminelle. Enfin, il y a une victime, il y a un drame, il y a une famille qui est dans le drame. Donc bien, c'est bien, on a fait avancer les choses. Il y a tellement d'autres combats derrière que je ne peux pas dire que je sois à titre personnel satisfaite. Je suis contente qu'on ait réussi à faire ça et qu'on l'ait fait collectivement. C'est quand même un travail collectif.
Alors Corinne Hermann, on l'entend quand elle en parle, c'est un travail vraiment au long cours. J'ai envie de dire, c'est une avocate atypique parce qu'elle consacre vraiment toute son activité, son temps à ses tueurs en série, à ses cold cases. Qu'est-ce qui la motive ?
Bah, c'est assez simple en fait. C'est quelqu'un qui tout simplement cherche à assembler les pièces d'un puzzle.
Je ne suis plus dans la fascination qu'on a au départ quand on est jeune. La première chose, c'est vraiment de savoir qui a fait quoi. J'avoue qu'il y a quand même un côté mystère et adrénaline hein, quand même à chercher. Quand vous avez un corps, quand vous avez une scène de crime, qui, pourquoi, c'est juste passionnant. Une fois qu'on a la réponse, on est dans une autre phase. Là, c'est comment fonctionne le tueur, combien il en a commis, parce que moi j'aime bien aussi, selon certaines personnalités tueurs, on sait qu'ils ont commis d'autres faits, donc il y a d'autres réponses à amener. Et c'est un peu une traque sur dossier, mais ça reste une traque aussi pour nous. Mais c'est ça qui m'intéresse.
Alors ça fait près de 25 ans que Corinne Hermann travaille sur ces profils atypiques, hein, tueur en série. Moi, je me souviens de l'avoir croisé quand j'ai couvert pour Europe 1 le procès de Michel Fourniret. Elle a travaillé aussi sur Émile Louis. Elle vit vraiment physiquement avec. Hein.
C'est l'une de ses particularités, en fait. Maître Corinne Hermann voit tous les jours, en arrivant dans son bureau parisien, l'univers de ces criminels. C'est un bureau, d'ailleurs, à part dans un couloir d'un très grand cabinet, situé donc en plein centre de Paris, avec une fourmilière de collaborateurs. Un cabinet qui est d'ailleurs tourné pour l'essentiel vers un type de contentieux totalement différent. Mais le bureau de Corinne Hermann, je vous le disais, est à part. Je lui ai donc demandé de le décrire. Donc
sur les murs de mon bureau, il y a des cartes géographiques avec un certain nombre de photos et de punaises rouges pour indiquer des emplacements. Ce sont les affaires qui ne sont pas résolues. Sur le mur, il y a Estelle aussi, Estelle Mouzin, qui est peut-être le dossier qui tire tous les autres dossiers, et qui, cette petite fille qui a disparu à Guermantes en 2003. Il y a des personnes qui ont été retrouvées mortes, il y a des disparitions, et ça me permet de me concentrer au quotidien sur les parcours, les lieux géographiques, parce que c'est très important. La géographie concernant les tueurs en série, c'est en fait peut-être une des données les plus importantes. Savoir où sont les victimes, ça fait des connexions quand on est au téléphone, quand on discute avec d'autres personnes. Moi, j'ai le cerveau, d'autres fonctions qui se mettent en place et qui me permettent de dire tout d'un coup, de rapprocher un dossier à un autre ou d'avoir une idée sur des lieux qu'il faut explorer.
À se demander finalement si elle-même, Corinne Hermann, n'aurait pas voulu être enquêtrice.
Ah, probablement que comme les tueurs, je suis une enquêtrice loupée. Quand j'étais étudiante, c'est vrai que j'aimais bien le mystère. J'aimais bien le fait de dénouer les choses et de les remettre à leur place. Je pense que un idéal de justice, effectivement, comme beaucoup d'étudiants en droit, j'avais cet idéal de justice. Mais en fait, j'ai commencé dans la mode, donc on n'était pas tout à fait sur ce chapitre-là.
Bon, je vous rassure, après la mode, elle a effectivement fait des études de droit. Elle a été très longtemps juriste avant de passer le barreau. Et en tout cas, avec cette nouvelle affaire imputable à Jacques Ranson, elle m'a dit qu'elle allait en profiter pour réorganiser un petit peu son bureau et donc rajouter une nouvelle carte d'analyse, comme elle les appelle, qui sera consacrée à Jacques Ranson, parce qu'elle se demande, là encore, si la série criminelle ne serait pas incomplète.
Merci beaucoup, Chloé Triomphe.
Europe 1.
À suivre, je vous propose un témoignage exceptionnel. Il s'appelle Jacques Le Gall. Il a 98 ans. Il a raconté à Martin Fenneau sa rencontre avec De Gaulle à Londres juste après l'appel du 18 juin 1940.
Jusqu'à 14h, c'est Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et maintenant, à 13h39, retour sur un moment historique, Fabienne Lemoelle.
Il y a 79 ans, sur les ondes de Radio Londres, le général de Gaulle lance ce qui va devenir l'appel du 18 juin, une date gravée à jamais dans la mémoire d'un homme, Jacques Le Gall.
Le 18 juin a toujours été pour moi, je vais peut-être employer un mot exagéré, mais une date sacrée. S'il n'y avait pas eu l'appel du 18 juin, s'il n'y avait pas eu de Gaulle, parce que 18 juin, de Gaulle, la destinée de la France aurait complètement changé.
Bonjour Martin Fenneau.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui avez recueilli le témoignage exceptionnel de Jacques Le Gall, grâce à qui nous allons revivre un grand moment d'histoire. Je dis exceptionnel parce que, avant que vous ne nous disiez qui il est, rappelez juste nous son âge.
Alors effectivement, donc il a 98 ans et ça s'entend un peu, il ne les fait pas du tout. Hein. C'est un homme qui conserve une excellente mémoire d'une part et un dynamisme, une convictions dans le récit qui sont assez étonnants, on l'entend dans sa voix. Donc je suis allé le rencontrer chez lui à Saint-Malo en Bretagne parce que je cherchais à faire un reportage à la date anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et en cherchant dans la presse locale, Capucine Patouillet avec qui je travaille a trouvé un article qui évoquait le parcours de Jacques et de son petit frère Alexis qui avait été parmi les premiers, hein, vous l'avez entendu, à répondre à l'appel du général de Gaulle. Donc je les ai appelés tous les deux. Alors ils n'habitent pas au même endroit, donc je n'ai pu rencontrer que Jacques Le Gall, le grand frère. Mais en tout cas, il a tout de suite accepté de faire le sujet et donc il m'a accueilli dans son salon pour une heure d'interview.
Alors justement, il vous a raconté ce qu'il faisait ce 18 juin, devenu, il vous l'a dit, une date sacrée pour lui, même si ce jour-là, on va l'entendre, il n'a pas entendu l'appel de Gaulle.
Moi, le 18 juin, j'étais occupé à chercher un bateau pour rejoindre l'Angleterre. Hein. Avec mon jeune frère, 17 ans, du matin au soir, on cherchait un bateau, ce qui a été très difficile. Et quand je suis rentré à la maison un peu dépité de ne pas avoir à trouver un bateau, notre mère nous a dit qu'elle venait d'entendre un général français qui avait parlé de Londres, elle n'avait pas compris, l'émission n'était pas bonne, elle n'avait pas compris son nom, mais il disait que lui avait décidé de continuer le combat et qu'il appelait les Français à venir le rejoindre pour continuer la lutte. J'ai dit à ma mère tout de suite, bon, ben on aura au moins un général français qui a décidé de continuer le combat et qui nous attend là-bas. J'avais pris la décision de partir. J'étais persuadé que la guerre n'allait pas s'arrêter sur la défaite de l'armée française. On avait encore des moyens considérables à notre disposition. On avait une marine pratiquement intacte, c'était la troisième marine du monde. On avait beaucoup d'atouts encore derrière nous. J'étais persuadé que ça ne pouvait pas s'arrêter là. C'est le lendemain matin qu'on a trouvé, heureusement, un bateau qui a quitté Odiane pour aller à l'île de Saint. C'était le courrier de l'île de Saint qui s'appelle l'Arzénith, qui est devenu le bateau le plus cher de ma vie. Ensuite, on est allé jusqu'à Ouessant, puis on a trouvé un troisième bateau pour nous amener en Angleterre. J'avais 19 ans. J'étais en préparation à l'école navale, en deuxième année de préparation à l'école navale. Je n'ai pas hésité à prendre ma décision. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite de la prendre parce qu'on n'était pas battus et qu'il fallait continuer et que notre rôle, c'était coûte que coûte, de pouvoir participer.
Et vous partez à combien ?
D'Audierne, nous sommes partis à 22. 22 jeunes, mais uniquement des jeunes. Hein. Et ça m'a frappé beaucoup d'ailleurs qu'il n'y ait que des jeunes qui se soient lancés, qui aient eu le courage.
On comprend bien en écoutant Jacques Le Gall que sa décision de rallier Londres, Martin, il l'a prise bien avant l'appel du 18 juin. Mais cet appel, il vous l'a répété, ça l'a conforté dans sa volonté de partir.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était très marquant dans son récit. Il tenait vraiment à le souligner. Il faut bien se rendre compte, on l'a entendu dans l'interview, que Jacques Le Gall, 19 ans à l'époque, il se voue à une carrière militaire. Hein, donc, il prépare le concours d'entrée à l'école navale et à l'école de l'air. Il a déjà un sentiment patriotique très, très important, très développé. Il m'a dit qu'il était déjà prêt à défendre son pays avant l'appel du général. Le soir où sa mère entend l'appel, il se dit que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a un général français en Angleterre. Et vous l'avez entendu, donc le lendemain, il trouve un bateau et embarque avec son petit frère pour l'Angleterre.
Et le 6 juillet, enfin, il va rencontrer De Gaulle après une longue attente.
On a pu voir le général De Gaulle pour la première fois 15 jours après notre arrivée. On devait voir De Gaulle le 3 juillet. Le 3 juillet, pas de De Gaulle. Le 4 juillet, pas de De Gaulle. Le 5 juillet, pas de De Gaulle. On commençait à être inquiet. Et le général De Gaulle est arrivé le 6 juillet. Moi, je me rappelle comme si je le voyais encore aujourd'hui, là, un grand bonhomme, la figure très, très fermée, très pâle. On voyait qu'il était très fatigué, ça nous a frappé. Et alors, il est arrivé le 6 juillet, il nous avait rassemblés pour voir qui avait répondu à son appel. Parce que bon, s'il voulait représenter la France, il lui fallait quand même quelques Français autour de lui. Et alors, quand il est arrivé là, on voyait bien, il a été déçu de voir que si peu de Français avaient répondu à son appel. Et il y avait à peine là un millier de Français qui représentait toute la France. Donc c'était horriblement peu. Sur ce petit millier de Français qui étaient là, il y avait 80% de jeunes et 20% d'hommes adultes. Et De Gaulle, il s'est dit quand il a vu ça, c'est avec ces jeunes qu'il va falloir que je démarre la France libre. Il n'avait que ça comme civil qui s'offrait à lui. À côté de ça, heureusement, il avait quelques militaires aussi, mais très peu. Il a fait un petit résumé de son appel, très court. Et puis il a dit, vous êtes là, vous avez rejoint pour vous battre, c'est très bien. Maintenant, je vous dis une chose. Hein. Je vais vous demander de reprendre le combat tout de suite, sans aucun délai. Vous allez reprendre la lutte tout de suite. Et il a ajouté, parce qu'il faut qu'on puisse dire que la France, lui, déjà, il parlait en disant la France. Il faut dire que la France n'a jamais arrêté de combat.
Ah oui ?
Non, je lui ai dit, ça s'est résumé, vous êtes là, c'est très bien. Eh bien, il va falloir que vous commenciez à vous battre tout de suite, tout de suite. On n'avait pas signé encore notre engagement. Mais personne n'a calé, tout le monde a signé.
Voilà Martin, c'est incroyable. Hein. Cette mémoire, il a quand même 98 ans, on le rappelle, Jacques Le Gall. Il n'a rien oublié de cette rencontre. On sent la détermination aussi chez les jeunes à l'époque. Et cette détermination, on a l'impression qu'elle est toujours intacte chez lui à 98 ans.
Oui, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de rencontrer un homme comme Jacques Le Gall, parce que même si ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'il fait le récit de ce qu'il a vécu, néanmoins, on a l'impression vraiment qu'il revit chaque instant quand il vous le raconte. Pendant l'entretien, à plusieurs reprises, il s'est arrêté de parler. Pendant quelques secondes, alors ce n'était pas une absence du tout, hein. Il cherchait une date ou un terme, un souvenir mais précis, une anecdote. En fait, il ne raconte pas les choses à la légère. Et moi d'ailleurs, à chaque faux pas dans l'interview, une question maladroite ou un point sur lequel j'insistais trop, il me recadrait tout de suite. Hein. Donc plus que de la fierté pour ce qu'il a fait, il y avait surtout cette envie de partager avec précision ce combat qu'il a mené avec beaucoup d'autres pour défendre la France, ses valeurs. Il m'a d'ailleurs dit... plusieurs fois, que, et même s'il s'en est rendu compte que quelques années plus tard, que selon lui, cet appel général de Gaulle auquel il a répondu a vraiment changé le cours de l'histoire et a créé un basculement dans la guerre.
Merci beaucoup Martin Fenot de nous avoir fait partager cette rencontre et ce récit justement de ces jeunes résistants de la première heure qui ont rallié de Gaulle dès juin 40. On peut le retrouver dans un livre préfacé par Jacques Le Gall et écrit par son frère Alexis. Ça s'appelle « Les clochards de la gloire » et c'est aux éditions Charles Hérisset. Merci Martin.
À bientôt Fabienne.
Europe 1.
France-Brésil, c'est l'affiche choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine demain soir au Havre. Et les Bleus vont affronter une légende, la brésilienne Formiga, âgée de 41 ans. C'est sa 7e Coupe du Monde et Julien Froment lui a demandé les secrets de sa longévité.
Suite et fin de Tout Terrain sur Europe 1, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, Fabienne Lemoyle.
Et on termine avec la Coupe du Monde féminine et nous voilà déjà au huitième de finale avec une affiche qui claque pour les Bleus demain soir, France-Brésil. Bonjour Julien Froment.
Bonjour Fabienne.
Alors c'est vous qui allez nous faire vivre cette rencontre sur l'antenne avec Simon Rubin et notre consultante Sandrine Roux. Ce sera donc demain à partir de 21h au Havre. Et c'est l'occasion de nous faire découvrir dans tout terrain une légende du foot féminin qui va, je l'imagine, tout donner demain soir parce qu'elle participe à sa 7e Coupe du Monde. Je veux parler de la brésilienne Forminga que vous avez rencontrée juste avant le début de la compétition. Déjà, votre impression quand on rencontre une telle légende?
Eh bien, on n'a pas l'impression que c'est une légende, justement.
Je dis ça parce que vous avez tellement l'habitude de rencontrer
exactement.
Stars du PSG. Et elle joue au PSG.
Elle joue au Paris Saint-Germain. Et je l'ai rencontrée donc, au centre d'entraînement du PSG féminin, à Bougival, et non pas à Saint-Germain-en-Laye, au Camp des Loges, c'est là où les garçons s'entraînent. Et elle paraissait très simple, très gentille. C'est une légende parce qu'elle a 41 ans, elle a commencé le football professionnel, enfin tout du moins le football chez les grands, au milieu des années 90. À l'époque, c'était un peu le football d'avant, il fallait qu'elle se cache un petit peu pour pouvoir jouer au football parce que ses frères n'étaient pas forcément d'accord. Et donc, elle en est à sa 7e Coupe du Monde, elle en a loupé une seule dans toute sa carrière, celle de 91, parce qu'elle était vraiment trop jeune. Et voilà, et donc du coup, ce qu'on se pose comme question, c'est comment on fait pour tenir jusqu'à 41 ans? Et ben voilà la réponse de Formiga.
Je bois de l'eau de coco beaucoup. De l'entraînement, de la concentration, faire attention à son corps aussi. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Une alimentation saine aussi. Et puis bien sûr l'amour du football. Je pense qu'il faut se donner à 100% dans ce qu'on fait.
Voilà, des recettes a priori simples, se donner à fond. En tout cas, c'est, vous le disiez, une vraie pionnière et elle inspire vraiment le respect de tout le monde.
Oui, que ce soit des garçons ou des filles, bien évidemment, au sein de sa sélection, c'est une légende vivante. Elle a été sortie de sa retraite par Vadao, le sélectionneur brésilien, parce que tout simplement, il n'avait pas de joueuse, de milieu de terrain suffisamment forte. Et bien, Formiga, 41 ans, elle fait encore le travail et même plus que le travail. Et elle inspire aussi le respect du côté des garçons. J'ai posé la question notamment à Marquinhos, hein, le défenseur du Paris Saint-Germain. Il a été très élogieux à l'égard de Formiga.
Impressionnant tout ce qu'elle a fait pour le foot. C'est quelqu'un qui fait des efforts énormes pour un sport qui a été beaucoup jugé quand elle a commencé. Et maintenant, elle a gagné le respect. Maintenant, encore, elle continue à faire des matchs énormes, des belles choses. Elle est encore en sélection et elle mérite ça. C'est énorme. Et je demande juste c'est quoi la potion magique qu'elle a pris pour continuer comme ça au haut niveau encore à cet âge. C'est énorme. Franchement, c'est un plaisir de la voir.
Bel hommage. Hein.
Bah, oui. C'est, on a compris. Il se demande la potion magique.
Ouais, voilà. Alors, en tout cas, vous avez eu du nez, Julien, parce que vous aviez justement demandé à Formiga ce qu'elle pensait d'une éventuelle affiche France-Brésil. Alors, vous l'imaginiez pour une finale. Ce sera finalement 8e de finale donc au Havre. On va écouter sa réponse.
Elles ont une bonne équipe. Elles ont eu l'opportunité de bien travailler pendant ces deux ans, ce qui a beaucoup facilité la tâche du sélectionneur. Je leur souhaite bonne chance et qu'elles fassent du bon travail pendant cette Coupe du Monde. Jouer contre la France, ouais, ce serait pas mal. Je connais bien les filles, mais j'espère que le Brésil gagnera.
J'espère que le Brésil sera meilleur.
Alors le pronostic, Brésil-France, parce que c'est vrai que ça fait penser forcément aux affiches qu'on a connues chez les hommes et ça fait toujours peur, hein, France-Brésil.
Il y a quelques années, je vous aurais dit que ça allait être compliqué pour l'équipe de France. Là, en 2019, eh bien, la France, c'est 4e nation mondiale, le Brésil, 10e nation à la FIFA, une sélection un petit peu vieillissante, hein, sans parler bien évidemment de Formiga. C'est une équipe qui attaque bien. Il y a notamment la superstar Marta qui a inscrit 17 buts en Coupe du Monde. Elle fait mieux que toutes les filles, tous les garçons confondus. Mais derrière, c'est friable. Et là, l'équipe de France a vraiment une opportunité d'aller gagner ce match et d'aller
même
rencontrer.
Si l'équipe de France nous a fait un peu peur face au Nigeria.
Oui, mais c'était le dernier match. La France était déjà qualifiée. 2 matchs de victoire. Corinne Diacre a fait un petit peu tourner en sortant quelques cadres. Là, ça va être l'équipe type. Et face à ce Brésil, on le rappelle, il y a eu un match en novembre dernier, un match amical. La France l'avait emporté 3-1. Tous les voyants sont au vert et on espère que cette équipe de France ira en quart de finale défier l'ogre américain.
Merci beaucoup Julien Froment et on vous retrouvera donc demain soir aux commentaires à partir de 21h avec Simon Rubin et notre consultante Sandrine Roux pour une grande soirée animée par Lionel Rousseau et vous serez donc au Havre.
Exactement, on sera au Havre et on espère que les Bleus passeront ce cut des 8e de finale.
Merci Julien.
Merci à vous.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Virginie Salmen, Arthur Mbaché, Martin Fenot, Chloé Triomphe et à l'instant Julien Froment. Un grand merci aussi à Kevin Ouski pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Et c'était Fabienne Lemoyle sur Europe 1.